Lorsque je préparais cette prédication, il y a deux mots qui me venaient en tête. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Je préfère quand tu me donnes un verset, quelque chose, tu vois, c'est clair. Et c'était contraste et gouffre. C'est pas possible, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Et je réfléchissais, je priais, et c'est vrai que je me suis rendu compte que lorsqu'on lit les Écritures, qu'on parcourt la vie de Jésus, qu'on regarde les héros de la foi, les hommes et les femmes qui nous ont précédés, on se rend compte que quand même il y avait la main de Dieu, il y avait la puissance de Dieu, il y avait la conduite de l'Esprit, il se passait des belles choses. Et pourtant, ce n'était pas la majorité des gens qui avaient une connaissance biblique. Aujourd'hui, on vit dans un temps où vous êtes remplis, nous sommes remplis de vidéos YouTube. On vit dans un monde où il n'y a jamais eu autant de connaissances sur la Bible. Il suffit de cliquer, vous pouvez avoir toutes les infos que vous voulez. Vous pouvez savoir répondre à chacune de vos questions avec différentes approches, différentes théologies, peu importe. C'est incroyable, on a accès. Et quand vous pensez à un Luther qui s'est battu pour traduire l'Évangile, qui s'est battu pour traduire la Bible parce qu'il considérait que cette parole avait besoin d'être lue par le plus grand nombre, que ce n'était pas seulement les érudits qui pouvaient en profiter. Vous vous dites, mais aujourd'hui, on sait tous lire. On est tous très intelligents. On a tous des diplômes, des masters, des bacs, tout ce que vous voulez. On est des experts dans nos domaines. On a cet accès à la parole de Dieu. Mais est-ce qu'on vit autant de choses que l'Église primitive? Est-ce qu'on en vit plus? Est-ce qu'on en vit moins? Je n'ai pas l'impression qu'on vive plus. Je n'ai pas l'impression qu'on vive moins. Mais le sentiment que j'ai, c'est que parfois notre connaissance est bien plus élevée que ce qu'on est capable d'accomplir en Dieu. Et pourtant, l'Évangile est d'une simplicité sans nom. Mais on aime faire des exégèses, aller piocher dans l'hébreu. Vous verrez ce matin, on va parler un peu hébreu. On aime comprendre et sentir les subtilités parce que c'est comme si c'était une orgie intellectuelle. Mais après, est-ce que derrière ces choses-là, on arrive à mettre en pratique la pensée de Dieu pour notre vie? Et il y a là le gouffre. Tu peux parfois stocker une masse importante de connaissances, mais la connaissance ne fait pas la foi. Vous connaissez ce verset, « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Si vous allez plus loin, il n'est pas ici question de la raison et de l'intellect. Une partie, en partie, mais de la connaissance de qui est Dieu et de comment il m'amène à vivre, à expérimenter la foi. Et ça, par contre, c'est dramatique. Connaître des choses et ne pas vivre. Waouh, c'est compliqué. Et notre défi aujourd'hui, c'est dans cette masse d'informations, arriver à trier et arriver à prendre ce temps et se poser dans la présence de Dieu. Et dire, Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux. Ça, c'est compliqué. Parce qu'on va chercher des réponses rapides. On va à 2000 à l'heure. Seigneur, j'ai un problème. Que dit ta Bible? Tac, 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 tu Google. Ok, tu dis ça. Ok, je fonctionne comme ça. Tu n'as même pas entendu la voix de Dieu. C'est un drame. Pourtant, Dieu veut se révéler, veut te parler, veut vraiment que tu puisses vivre sa parole efficacement et concrètement, de manière pertinente. Et finalement, je me rends compte que parfois, nous sommes des pharisiens modernes. Les pharisiens étaient, pour la majorité, des personnes qui connaissaient chaque virgule de la loi. Incroyable. Connaissaient la liturgie par cœur. Ce qu'il faut faire, pas faire. Ils étaient ceux qui, quelque part, étaient les représentants de Dieu, connaissaient la loi. Et pourtant, Jésus leur a dit, en Matthieu, chapitre 23, du verset 1 à 3, « Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, » C'est bien Jésus qui parle, il est notre modèle. Et là, il va nous foudroyer qu'une réalité si puissante que quand on la considère, on se rend compte que, waouh, il y a un monde, il y a un contraste. Les spécialistes de la loi et les pharisiens se sont fait les interprètes de Moïse. Donc les interprètes de Moïse, pourquoi? Parce que la loi est venue au travers de Moïse, ils connaissaient Moïse, ils connaissaient leurs ancêtres et ils connaissaient la loi. Tout ce qu'ils vous disent, faites-le donc et respectez-le. Mais n'agissez pas comme eux, car ils disent et ils ne font pas. Et là, Jésus nous foudroie. Une réalité tellement simple. Ils disent, mais ils ne font pas. Une différence entre ce que je dis et ce que je fais. Incroyable. Et vous savez, on a la parole facile. On parle beaucoup. Moi, des fois, je regarde ma femme, j'en profite parce qu'elle est là, et je lui dis, qu'est-ce que tu parles ? Marie, vous vous dites ça à vos femmes ? Et puis hier, elle me dit, mais toi, quand tu... Elle dit, tu... Et hier, elle m'a repris. Parce qu'on était au match de foot de Timothée, entre deux réunions, on a pris la voiture, on est allé voir Timothée au foot. Et moi, j'étais là, sur le match, je regardais le match, je dis, regarde, là, il doit percuter plus, regarde celui-là, faut qu'il passe. Et j'étais à fond, comme ça. Et Chanel me dit, mais qu'est-ce que tu parles ? Elle dit, moi, j'ai pas dit un mot. Elle dit, tu vois, quand il y a un sujet qui nous intéresse, et c'est une réalité. On parle de ce qui nous intéresse, on parle de ce qu'on connaît. Et souvent, nous, chrétiens, on a une petite connaissance, on parle. Et tu sais, le pire, c'est que quand tu sais quelque chose, tu as envie de le dire à l'autre, et tu vois. On est comme ça, c'est tout. Mais on doit gérer ça. Parce qu'on veut être à l'image de Christ. Et Christ, lui, faisait ce qu'il disait. Si vous regardez la parole de Dieu, que vraiment vous analysez la vie de Christ, il n'a pas fait des séminaires sur le couple. Il n'a pas organisé des grandes conférences sur l'amour de Dieu. Il n'a pas organisé des réunions de réveil sur comment prier et comment louer Dieu avec une... Je ne sais pas ce qu'ils avaient à l'époque, des trompettes, des machins, d'accord ? Ils n'avaient pas ça. Il n'a pas fait ça. Il a juste dit qu'il fallait donner et puis y aller jusqu'à la croix. Il l'a fait. Il s'est incarné. Sa parole s'incarnait. Incroyable. Et il est là toute la subtilité. Alors, Genèse 1, verset 3, vous le connaissez tous. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors effectivement, lorsqu'on s'arrête en français, c'est là où on va aller chercher ceux qui aiment bien les petites subtilités. Je vais vous faire plaisir. Mais vous allez voir que finalement, ce n'est pas si utile que ça quand tu comprends la pensée de Dieu. Lorsque Dieu parle, Dieu, le Créateur, lorsqu'il parle, immédiatement, il n'y a pas de distance entre sa parole et l'action. Dieu parle, ça se produit. Il n'y a pas de gouffre. Aucun. Et le mot dit, c'est en hébreu « amar ». C'est ce côté intention de Dieu. Dieu a l'intention de faire quelque chose. Et lorsque ça se produit, ça se transforme en hébreu en davar. Amar à davar. Davar, c'est l'intention exécutée immédiatement. Cette parole sort de sa bouche et s'accomplit immédiatement. Alors, on a souvent pensé que la foi, c'était un saut dans le vide. On disait aux chrétiens, les chrétiens, la foi, c'est, il faut y aller tout simplement, pense à rien, saute. C'est, d'une certaine manière, oui. Parce qu'on ne comprend pas tout, mais finalement, c'est faux. Parce que Jean va commencer son évangile et qu'est-ce qu'il va dire ? Il va donner un mot, il va parler à l'époque avec un mot qui va bouleverser les Grecs de l'époque. Et ces mots étaient bien choisis. Vous connaissez ce verset ? Jean 1, verset 14, et nous on l'utilise beaucoup. Et la parole a... c'est pas celui-là, pardon. Jean, c'est pas celui-ci, excuse-moi. Jean 1, verset 1. Et la parole, quoi ? Et la parole, c'est pas celui-ci. Jean, verset 1. Chapitre 1, verset 1. La parole était Dieu. Yes, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est juste ? On aime bien ce verset-là. La parole, on nous parle de la parole. Et le problème, je parlais avec quelqu'un, on parle avec beaucoup de chrétiens de différentes dénominations, et j'écoutais sa théologie. Et la théologie, elle me faisait grincer en moi-même, parce qu'on n'avait pas la même compréhension. Il me disait, tu sais, la parole... et l'autorité suprême. Moi, je dis, c'est logique. Mais ce qu'il essaie de me faire comprendre, c'est quelque part, c'est comme un contenant. Vous voyez, vous avez un verre, il y a de l'eau dedans. Et en fait, lui, c'est comme s'il me parlait du verre. Ce verre-là est tellement important. Et moi, mon cœur, c'était, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. C'est l'eau qu'il y a dedans. Parce que si c'est juste les mots pour les mots, la lettre, elle fait quoi? Elle peut tuer. Elle n'a pas de vie en elle-même. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est cette parole lorsqu'elle prend forme en moi et qu'elle prend vie. Le davar. Une exécution de ce qui est écrit. Des promesses de Dieu. Des décrets de Dieu royaux. Et lorsque ma foi s'attache à ça, il se produit quelque chose. Alors plus loin, dans le même chapitre, Jean 1, verset 14, vous irez lire un chapitre magnifique, il nous est dit « Et la parole a été faite chair. » Incroyable. « Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Ici, ce que je vous disais, c'est que Jean va utiliser le mot « logos ». On le connaît tous. On parle souvent de révélation. On nous dit, il vous faut un logos, une révélation. Mais on a la révélation. Christ est la parole. On connaît l'intention de Dieu. On connaît déjà l'intention de Dieu, c'est de te sauver, toi et moi, de nous libérer de la condamnation et qu'on puisse vivre avec lui et vivre cette vie sur terre avec lui. C'est tellement simple. Et pourtant, on a parfois un gap, un gouffre, tellement préoccupé par tout ce qui est autour de nous qu'on cherche une révélation, mais on l'a déjà eue, mais on ne la vit pas. On est en décalage. Et on cherche des choses un peu plus techniques, pensant que là, on va trouver quelque chose de plus haut. Mais il n'y a pas plus haut que le salut en Jésus-Christ, que cette parole faite chair. Qu'est-ce que je peux trouver de plus grand que Jésus-Christ, parole de Dieu, faite chair pour ma vie? Incroyable. Nous, dans notre raisonnement occidental, eh bien, notre pensée, elle est théorique, et puis après, il y a l'action. On parle beaucoup de théorie, on est très théorique. Et finalement, ça rentre dans l'Église, tout ça. On a des concepts. On parle de choses qu'il faut faire, pas faire, c'est la théorie. Mais on dissocie parfois la théorie de l'action. Alors que pour Dieu, une parole doit produire une action. C'est comme ça chez lui. Lorsqu'il parle, ça produit quelque chose. Lorsque tu parles, lorsque je parle, est-ce que ça produit nécessairement quelque chose pour le royaume de Dieu? On parle beaucoup. Mais est-ce que ça produit, est-ce que c'est un effet spirituel qui a une portée éternelle? Réfléchis bien. Tourne ta langue cette fois. Moi, j'en suis loin. Je parle encore trop, je pense. Jésus, la parole faite chair. Lui, il parlait, il agissait. Il manifestait sa compassion, il allait voir le lépreux, celui que personne ne voulait toucher, et il enlaçait. Il ne faisait pas un discours sur la compassion, la morale. Jésus n'est pas venu nous donner une morale, il nous a montré comment être la parole, comment vivre la parole. Il croisait un malade, il guérissait. Incroyable, cette parole révélée qui révèle l'intention de Dieu dans une situation. Qu'en est-il pour toi et pour moi? Eh bien, la réalité, c'est que la parole révélée, c'est que tu as cette connaissance du désir que porte le Père. Le Père, c'est de faire du bien à tous ceux qui sont prêts à tourner le regard vers lui. Christ s'étant fait chair, la parole de Dieu est devenue muscle, est devenue sang. Est devenu une main qui se tend vers toi. Il a agi puissamment. Et toi, tu es là, dans des situations, et tu discutes. Mais est-ce que je dois vraiment l'aider? Est-ce que je dois vraiment être là pour lui? Comment je dois agir? Et pourquoi? On tergiverse beaucoup, vous voyez. Il y a ce gouffre. On connaît la parole de Dieu. On connaît l'intention de Dieu. Mais on réfléchit. Et on se perd dans toutes sortes de réflexions et on agit moins, on n'agit pas assez. C'est incroyable. Est-ce que vous êtes comme moi ou je suis tout seul? Ou je me prêche qu'à moi-même? Je me prêche à moi, mais je crois que ces deux mots, gouffre, contraste, il faut qu'on soit vrai avec nous-mêmes. Suis-je à chaque seconde, à chaque instant, l'image de Christ? Est-ce que j'agis comme lui? Il a été mon exemple. Et pourtant, parfois, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce qu'on est envahi de toutes sortes de réflexions, de raisonnements. Alors, si tu as que du logos, de la révélation biblique, tu sais, eh bien, tu sais quoi, t'as, en fait, tu, c'est ce genre de chrétien qui, tout est logique, tout est appuyé sur la doctrine, tout est carré, mais c'est froid. C'est froid. Est-ce que tu as été comme ça? Moi, j'ai été comme ça dans certains moments. Avoir un concept, mais c'est froid. C'est vrai. Ça peut être juste, mais c'est froid. C'est pas porteur de vie. C'est comme quand tu arrives chez quelqu'un, tu vois, les murs sont blancs, le carrelage est blanc, ça résonne de partout, c'est froid. Tu vois pas la vie. Vous comprenez, parfois, on est comme ça. Il n'y a pas de reproche à faire. C'est juste qu'il manque de vie. Et puis, il y a ceux qui sont que dans le davar. Davar, c'est l'exécution. C'est parfois une compréhension mal équilibrée. Ça se retrouve beaucoup dans nos milieux charismatiques. C'est l'expérience. C'est la fumée. C'est les confettis. C'est les artifices. Mais ce n'est pas appuyé sur la parole. Mal équilibré. Il n'y a pas de fondement. Il n'y a pas de structure. Ce n'est pas dans la logique de Dieu, tu vois. Si on cherche une expérience, mais on ne voit pas en quoi ça glorifie Dieu. On ne voit pas en quoi c'est sur le cœur de Dieu. Mais c'est pour se faire du bien. C'est là où Paul a dit, bon, pas tout le temps. Comprenez, il faut que ce soit vraiment de Dieu. Il faut que ce soit le toucher du Saint-Esprit réel, pas quelque chose qu'on provoque, pas quelque chose qu'on essaie de créer. Moi, je vous l'ai dit, hein, c'est pas un jugement, je crois qu'il y en a pour tout le monde, mais moi, ça m'a intrigué. Une fois, je suis allé dans une église prêcher, j'arrive là, d'un coup, la fumée arrive, les lumières, je dis, oh, qu'est-ce qui se passe là? Je l'ai pas bien. J'ai dit, mince, je suis avec mes enfants, ils vont me demander de faire ça au phare. Faut du budget, faut tout. Je dis, non. Puis les enfants, ils m'ont dit, c'est bizarre quand même, hein, papa. Je dis, merci Jésus. Mais moi, je ne veux pas provoquer. Ça ne m'intéresse pas de provoquer parce que j'ai tellement été touché par la puissance de Dieu. Il ne peut rien y avoir. J'ai dit aux jeunes, j'ai dit, vous savez, moi, je n'ai pas connu ce que vous avez connu. L'église que vous avez connue, je ne l'ai pas connue. Je n'ai pas eu d'école de dimanche. Ici, vous avez une dizaine de personnes qui gèrent les enfants. Moi, je n'ai pas eu. Parce que mon père, il implantait les églises. Voilà, il y avait du monde là. Il n'y avait pas des équipes. Je n'ai pas eu. Le groupe de jeunes, Paul était responsable et Sandy, du groupe de jeunes, c'était mes sœurs. Je n'avais pas envie d'y aller. J'allais pour être avec mes sœurs, tu vois. C'était pas fou, quoi. C'est pas l'enseignement, c'est... Tu vois, donc j'ai connu, mais et je dis, vous avez tout. Mais en fait, on pourrait vous en donner encore plus. C'est pas ça qui va faire la qualité de votre foi. C'est votre rencontre avec Dieu. C'est votre désir de le servir. C'est cette recherche de sa sainteté. C'est d'être touché puissamment, de ne plus revenir à être le même. Moi, je me souviens, c'est Vincent Esterman, il m'a dit, comme il venait tous les ans, il m'a dit, toi, je t'ai vu telle année, tu étais comme ça. L'année d'après, tu n'étais plus le même. Moi, je ne m'en rendais pas compte. Mais entre-temps, j'avais ma rencontre personnelle avec le Christ. Ça m'a transformé. Et tu vois, ce n'était pas juste la parole, on m'a convaincu que c'est vrai, la raison. C'était oui, la parole, mais j'ai vécu quelque chose de profondément intime. Tu as besoin de vivre des choses profondément intimes. C'est essentiel. Sinon, eh bien, ce n'est même pas une religion, c'est une idéologie que tu sers. Ça ne m'intéresse pas de servir une idéologie. Ça t'intéresse? Non. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Elle nous a montré le chemin. Jésus a dit, je suis la vérité, le chemin. Ce chemin qu'il faut suivre, tu vois, faut expérimenter, il faut devenir un marcheur professionnel. Et les évangiles nous parlent systématiquement de marcher, nous parlent de cette action. Jésus parlera constamment de pratiquer les choses, de mettre en pratique. Et en fait, marcher, c'est un mot qui a du sens. Parce que vous allez voir, il y a un secret dans la foi. Et ce secret-là, c'est le premier pas. Alors, beaucoup se plaignent. Là, je vais maintenant toucher là où ça peut faire mal. Beaucoup se plaignent, je n'entends pas Dieu. Je parle à quelqu'un, je dis, tu sais, moi, il y a des moments dans ma vie clairs que j'ai pu noter sur un papier où j'ai entendu Dieu. Depuis que je suis jeune, je n'ai pas attendu d'avoir fait des études sur la Bible, etc., etc. J'ai entendu Dieu. Ce n'est pas une voix comme toi, mais c'est une conviction puissante qui s'impose à moi, une pensée qui m'écrase. Et je sais que c'est Dieu. Quand je dis qu'il m'écrase, ça fait taire en moi tout ce qui existe, tous mes raisonnements. Et j'entends, c'est comme ça que tu vas faire. Ah bon ? Ok, j'y vais. Mais beaucoup de gens n'entendent pas ça. Et peut-être que c'est différent. Je ne suis pas en train de dire que ma façon de vivre ma relation avec Dieu est la seule. Ce n'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que la manière dont Dieu te parle, il faut l'entendre. Mais sache que Dieu ne parle pas beaucoup. Oh là là, je t'apprends quelque chose. Dieu ne parle pas beaucoup. T'as déjà entendu ça quelque part, toi ? Ben moi, je m'en suis rendu compte cette semaine. Dieu ne parle pas beaucoup. Par contre, quand il parle, c'est précis et ça t'amène à l'action. Et je vais te donner une deuxième chose. Ça va peut-être te perturber. Dieu parle à certaines personnes et pas à d'autres. Mince. Souvent, on dit Dieu peut parler à tout le monde, mais Dieu ne parle réellement qu'à certaines personnes. Ils ne sont pas meilleurs. Attention. Mais il parle aux personnes qui sont prêtes à agir. Et il voit ton cœur. Et si tu commences à réfléchir à ces fois où tu as connu cette expérience, cette parole, ce davar qui t'a poussé à l'action, c'est au moment où tu étais prêt. C'est au moment où ton cœur, il avait soif de Dieu. Où il fallait que tu vois un changement dans ta vie, tu étais disponible et disposé à entendre. Et là, tu entends juste « vas-y » ou « arrête-toi » ou « calme-toi » ou « retourne te coucher ». On a entendu hier « retourne te coucher » parce que ton cœur était prêt à agir. T'en peux plus, il faut que ça bouge. Et ce n'est pas de l'ordre de la volonté, c'est de l'ordre de l'homme spirituel qui essaie de se calibrer à la volonté de Dieu. Tu me suis ce matin ou... Ah, il ne parle pas à tout le monde. Il parle à ceux qui sont prêts à faire le premier pas. Quand ton cœur dira, Seigneur, me voici. Est-ce que tu arrives à cibler ce moment dans ta vie où ton cœur a dit, Seigneur, me voici. Je ne parle pas du Seigneur, me voici, à nouveau. Hein. Oui, je suis chrétien, Seigneur, me voici. Pas le « me voici » de tous les jours. Le Seigneur, c'est maintenant « me voici vraiment, je suis prêt à agir ». Moi, ma femme, parfois, elle me dit « chérie », parce que les femmes entendent beaucoup plus la voix de Dieu, excusez-moi les hommes. Tout simplement parce que nous, les hommes, on est des petits orgueilleux et fiers. Malheureusement. Et alors, on est là, on veut faire, on veut agir, on veut contrôler les choses. Et ma femme, une fois, je lui ai dit « chérie, maintenant, je crois qu'on va faire ça en tant que... chef de famille, on va aller là-bas. » Et elle me regarde, enfin. Ça fait 2 ans que je sais qu'il faut faire ça, mais voilà, t'es prêt maintenant. Et maintenant, ça y est, Dieu te le dit, on doit y aller. Mais quand moi je te l'ai dit, pourquoi tu m'as pas écouté? Dieu me l'avait pas dit. Mais écoute Dieu, s'il te plaît. Ça, c'est des expériences de la vie de tous les jours. Je vous donne ça parce que c'est des réalités, c'est ce qu'on vit. Je suis pas prêt. Je ne suis pas prêt à entendre. Alors on râle, Seigneur, il ne me parle pas. Et on se met à jeûner, à prier. Mais notre cœur n'est pas disposé. Alors tu es dans le jeûne, tu es dans la prière. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu n'entends rien. Tu n'es pas prêt. Alors, la révélation, ce logos, ce qui devient davar, ce n'est pas quelque chose pour les plus intelligents, pour ceux qui connaissent mieux leurs paroles, qui connaissent toutes les subtilités. C'est pour ceux qui sont prêts à suivre Dieu. Du plus simple intellectuellement, celui qui a du mal même à lire sa Bible. Moi, j'ai vu des gens d'une simplicité tout simplement intellectuelle, mais qui servaient Dieu avec un cœur exceptionnel. Parce que c'est simple pour eux. J'aime Jésus, je veux le servir. Je suis là. Et j'ai vu des gens avec une connaissance exceptionnelle pas être capables de dire bonjour et connaître le prénom de leur voisin. Il y a un problème. Il y a un contraste. Comment je peux manifester l'amour si je ne connais même pas le prénom de mon voisin? C'est qu'il ne m'intéresse pas celui-là au final. Mais l'intention du cœur de Dieu, c'est que tu connaisses ton voisin. Tu n'as pas besoin de prier 2 semaines. Ça marche? Amen. Amen, Audrey. Elle ne vous a pas encore contaminé, Audrey. Tous les dimanches, elle poursuit. Amen, amen. Alors, Église du Phare, inspirez-vous. Amen. Alors, la vision du monde classique, c'est accumuler pour survivre. Vous le voyez autour de vous, vous êtes parfois impacté pour ça. Il faut accumuler, accumuler pour ma retraite, accumuler pour ceci, accumuler pour cela, pour obtenir, pour avoir. C'est la vision du royaume, c'est partager pour faire vivre. Je partage ce que j'ai pour faire vivre l'autre. Totalement différent. Ensuite, c'est la force impose le respect. Dans ce monde, il faut se faire respecter. Je vais me faire respecter par la force. Peut-être de mes poings, peut-être de mes paroles, peu importe, mais tu vas te faire respecter dans ce monde, il faut se faire respecter. Dans la vision du royaume, c'est le service transforme les cœurs. Je vais me mettre au service, même de celui qui ne me respecte pas. C'est fou. Alors, Jésus va crier quelque chose, Marc chapitre 1, verset 15, il va crier, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. » Le royaume de Dieu est proche. Alors, le royaume de Dieu est proche, ce n'est pas quelque chose qui nous parle de quelque chose de lointain. C'est vraiment, le royaume de Dieu est proche, c'est quelque chose qui est dans ton espace vital. Dans ton espace vital, dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu ressens, dans tout ce que tu penses, dans tout ce que tu projettes, dans toute ta personne. Le royaume de Dieu s'approche de toi. Et le royaume de Dieu consiste pas en parole, mais en puissance. Une parole, un davar qui vient vers toi et que tu mets en pratique, que tu appliques, eh bien là, il se passe quelque chose. Ce royaume de Dieu-là, c'est les choses du ciel qui descendent sur la terre, qui prennent forme dans ma réalité et qui glorifient Dieu tout simplement. Ce n'est pas compliqué, mais ça nécessite cette foi qui dit « je lève le talon, je commence à marcher ». Tu vois, il y a ces choses où on dit « Seigneur, donne-moi, 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 il faut que j'aie, mais on ne bouge pas, il ne se passe rien. » Il vaut mieux bouger et se tromper. Mais au moins, les choses bougent tout simplement. Il y a un mouvement, il y a une inertie dans la parole de Dieu. Ce n'est pas statique. Psaume 118, 105. J'essaie d'accélérer, excusez-moi. Psaume 118, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. On s'arrête là, ici, grande révélation. On aime bien, ça nous montre comment Dieu fonctionne avec nous. Si tu n'es pas content, c'est tout, fais demi-tour. Dieu fonctionne comme ça avec nous. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Ce n'est pas un projecteur qui allume tout autour sur 360, sur 10 kilomètres. Alors, pour les puristes de la parole de Dieu, ils vont me dire, Alexis, tu ne peux pas comparer ça à un projecteur. Il n'y avait pas de projecteur à l'époque. Alors, si tu veux, oui, il n'aurait pas pu écrire, c'est un projecteur au-dessus de ma tête. Mais il aurait pu écrire, la parole de Dieu est un soleil au-dessus de ma tête. Ses rayons fendent les ténèbres et éclairent jusqu'à des milles devant moi. Et je vois l'ennemi trembler sous ses... Vous comprenez ce que je veux dire? La parole, s'il a envie de vous dire quelque chose, elle vous le dit. S'il est écrit que c'est une lampe à tes pieds, c'est que c'est juste une petite lumière qui éclaire ton premier pas. Tu ne sais pas où tu vas aller, c'est ça la foi, mais tu fais le premier pas. Une lumière sur ton sentier qui te montre, ah, tu vas un peu à droite, un peu à gauche. Nous marchons par la foi, mais pas par la vue. Cette parole, c'est une petite lumière qui engage mon premier pas. Et lorsque j'engage le premier pas, là, il se passe quelque chose. C'est incroyable. Seigneur, quel mari j'aurai dans 5 ans, mon travail dans 10 ans, ma retraite dans 40 ans, toutes ces anxiétés, ces préoccupations, ces choses qui te stressent. Et Jésus dit, la foi, c'est pas ça. C'est une petite lampe à tes pieds. Fais-moi confiance. Fais le premier pas. et ta foi va grandir, tu vas voir ma gloire dans chacune de tes réalités. Mais fais le premier pas, s'il te plaît. Et là, tu vas commencer à entendre à gauche, arrête-toi, à droite. Et on va voir une histoire maintenant. Vous allez voir Jésus, parole faite chair. Jean 9, histoire magnifique. Jean chapitre 9, versets 4 à 8. Jésus dira, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Jésus connaissait parfaitement l'intention. Il était la parole faite chair. Donc il a accès au Logos, il a accès à cette révélation du Père directement. Il sait ce que le Père veut en tout temps, à chaque instant. Mais il va l'accomplir, c'est-à-dire qu'il va la mettre en pratique. Donc il marche. Et il nous dit, il faut que j'accomplisse les choses. C'est ce que je dois faire. Je ne vais pas vous faire des séminaires, des conférences sur le réveil. Je vais faire ce que le Père m'a demandé de faire. Tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et il fit la boue avec la salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi dans le réservoir de Siloé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu, comme un mendiant, disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mangeait? Mets-toi dans cette situation. Souvent on dit, ouais, Dieu utilise la boue. Ok, très bien, on connaît l'histoire. La réalité, c'est que Jésus fait un truc complètement fou. Il connaît l'intention de Dieu et il va mettre un aveugle, c'est ridicule la situation, humainement parlant. Il prend de la boue qu'il applique sur les yeux d'un aveugle. Il voit déjà pas et il lui met en plus de la boue. Et il lui dit quoi? Va te laver. Tu dis à un aveugle de traverser la ville, il y a une foule. La foule suivait toujours Jésus. De traverser tout Jérusalem aveugle avec sa boue et aller se laver. C'est ridicule. Pourquoi il n'a pas fait ça? C'est complètement bête. Mais Jésus, parole faite chair, révélation, ce davar, cette parole en action. Et là, il lui met la boue. Va te laver. Bouge-toi. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Eh bien, la guérison ne vient pas de la boue. La guérison ne vient pas de l'eau. La guérison vient de la marche de l'aveugle. Au moment où il croit en cette parole et qu'il met le premier pas devant, la guérison est en train de s'opérer. Parce qu'il a confiance en cette parole. Jésus aurait pu, écoute bien, le canal de bénédiction, lorsque Jésus veut faire les choses par sa propre foi, il claque des mains, ça s'accomplit. Il est comme Dieu. Lorsqu'il va crier, Lazare, sort! Qu'est-ce qui se passe? Lazare sort. Ressuscité, il sort. Il peut le faire par sa propre foi. Mais là, il va passer par la foi de l'aveugle, du mendiant. Et là, le mendiant a deux choix. Soit, il réfléchit à la théologie de la boue. Qu'est-ce qu'elle va faire, la boue? Elle a peut-être des bienfaits pour mes yeux, et tcha tcha tcha, et tcha tcha tcha. Et il ne se passera rien. Soit, il attend que le miracle se produise, et bien il serait resté toujours là. Donc là, la seule solution pour son miracle, c'est d'actionner sa foi, d'actionner ce premier pas et de recevoir la guérison. Lorsque Jésus dit « Lazare sort », il passe par sa foi à lui. Il n'y a besoin de personne, Jésus. Parfois, Dieu va te demander d'actionner ta foi. Il pourrait faire, mais il te demande de faire le premier pas. Est-ce que tu es prêt à faire ce premier pas? Incroyable, ce Jésus. Il est cette parole révélé. Nous devons agir et vivre comme lui. Nous devons pleinement dire, Seigneur, ok, je comprends ce concept-là, mais il faut que je le vive. Mardi, il y a 15 jours, ça ne m'est pas arrivé depuis longtemps, mais là, c'était puissant, mais puissant. J'étais au travail, et voilà, il s'est passé beaucoup de choses. Cherchais Dieu, Dieu était en train de travailler mon cœur. Je sentais, vous savez, ces moments où vous sentez que vous n'êtes pas calibré, peut-être que vous avez raison, mais il se passe des choses en vous, c'est comme si ça gratte un peu, tu vois, tu n'es pas à l'aise avec tes propres pensées, tes propres convictions, et tu grattes, tu dis, mais en même temps, Dieu, c'est un peu flou dans ta réalité. Et là, la puissance de Dieu est tombée sur moi, d'une expérience que je n'avais jamais connue. J'ai connu de certaines manières, mais Mais là, c'était, je pleurais comme un gosse. Toute une après-midi, je suis rentré du travail, je ne montrais même pas aux enfants. Chanel dit, qu'est-ce qui t'arrive? Je regardais Chanel, je pleurais. Ça a duré pendant 7-8 heures. J'ai dit, j'arrive, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a une paix qui m'envahit. Il y a une clarté dans ma tête. C'est incroyable. J'arrivais pas à mettre les mots. Et je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et là, le seul mot que j'ai su mettre sur l'expérience que j'avais vécue, c'est Dieu qui me disait, je suis en train de circoncire ton cœur pour ce que j'attends de toi. Et parce que tu es prêt, je le fais maintenant. Tu n'étais pas prêt avant. Tu n'aurais pas accepté avant. Je circoncis ton cœur. C'est biblique. Je l'ai vécu avant de le savoir. Je l'ai vécu avant différemment. Mais c'était le davar, cette parole, cette révélation de Dieu pour ma vie à moi. Pas pour toi, pour moi. Pour ma réalité. La puissance du Saint-Esprit qui agit. Voilà pourquoi la doctrine de la lettre seule, elle ne m'intéresse pas. Parce que la lettre vivante en moi, appuyée par l'Esprit, fait de moi un enfant de Dieu qui vit les choses comme le Père le demande. Une parole, une action. Amen. Ah. Alors j'aimerais t'encourager cette semaine. Mets un peu de côté toutes tes études et choisis un mot. Peut-être l'amour, peut-être la bonté, peut-être la patience, peu importe ce que tu vas choisir. Laisse le Saint-Esprit t'inspirer et dis, Seigneur, me voici sur ce sujet. Peut-être que je sais tout, mais je veux vivre quelque chose de nouveau avec toi cette semaine. Je veux faire ce premier pas dont j'ai peur, qui est risqué parce que je ne vois pas bien devant. Mais je sais que tu as mis ta lampe à mes pieds dans cette direction et je vais faire ce pas-là. C'est risqué, hein? Parce qu'on n'est pas, sécure, on n'est pas dans le contrôle. Mais ce pas-là va changer ta vie. Ce pas-là va te faire de toi vraiment cette personne qui connaît de plus en plus les profondeurs de Dieu. Et ces profondeurs-là sont exceptionnelles. C'est la parole en application. Amen. Est-ce que c'était clair pour vous? Amen. Seigneur, nous prions ce matin. On veut conclure, Seigneur, ce message. On a entendu beaucoup de choses dans notre culte, Seigneur. C'était tellement, tellement profond qu'on voudrait rester ici toute l'après-midi, te chercher, louer, Seigneur. Mais on a des réalités. Et Jésus, je te prie pour cette parole, Seigneur. Que ta parole soit vivante en nous profondément. Seigneur, je me dresse maintenant devant toute forteresse intellectuelle. Jésus, nous les déposons devant toi et nous voulons qu'elle tombe, Seigneur, dans notre esprit, dans notre âme. On a dit que tu règnes en nous. Eh bien, viens régner profondément. Que ce ne soit pas juste un chant, une parole qu'on a chantée comme ça, mais viens régner sur chacune de mes pensées. Viens régner sur chacun de mes projets. Viens régner sur tout ce que je suis, sur chacune de mes émotions également. Seigneur, je veux que nous puissions proclamer ton nom, mais le proclamer en agissant. On ne veut pas rester là sur des paroles, Seigneur, qui restent stériles. Toi, tu es un Dieu, lorsque tu parles, tu crées. Lorsque tu parles, il se passe quelque chose. Jésus a agi constamment, selon ta volonté. Alors Jésus, nous recevons ta parole. Nous connaissons ta parole. Nous connaissons tes écrits. Nous connaissons les promesses. Nous connaissons les principes. Nous connaissons les vertus. Mais nous voulons les vivre davantage. Alors Seigneur, viens nous secouer là où nous sommes. Seigneur, je ne sais pas ce que vit chacun et chacune ici. Peut-être pour certains. Mais je crois, Seigneur, que tu veux te manifester dans chacune de nos vies concrètement, dans la pratique, dans la réalité. À certains, tu vas donner l'audace de parler à ceux dont ils ont peur de parler. À certains, tu vas donner cette foi, Seigneur, comme l'aveugle, le mendiant de Siloé, Seigneur, qui a osé se lever contre sa maladie, qui a osé dire « maintenant, ça suffit pour mon corps ». Seigneur, tu vas donner la foi à certains de se réconcilier. Tu vas donner la foi à certains, Seigneur, d'oser pardonner, Seigneur, là où ils ont été blessés. Seigneur, tu vas aider certains, Seigneur, à manifester la compassion concrètement cette semaine. Jésus, comme ça, on aura beaucoup de témoignages et on pourra rendre gloire de qui tu es réellement. Alléluia.